Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, l'histoire d'un hymne qui fait vibrer les stades. Vous pensez peut-être que c'est la musique de la Ligue des Champions. Eh bien, désolé, mais vous avez tort. C'est une musique baroque, composée par Handel. Pourtant, ça ressemble quand même beaucoup à l'hymne qui résonne au début de chaque match devant des millions de spectateurs. Écoutez plutôt. Cette ressemblance, c'est normal. Handel a très largement inspiré ce morceau si reconnaissable. Le classique et le sport, deux univers qui semblent a priori extrêmement éloignés, et pourtant, des liens existent. Alors, comment et pourquoi on passe d'un morceau baroque à la musique qui accompagne un des plus grands événements sportifs de la planète ? Refaites vos lacets et préparez-vous à mouiller le maillot. Comme le Tour de France, la Ligue des Champions est née grâce à un quotidien sportif français. C'est le journal Loto qui a créé la grande boucle, c'est son descendant, l'Équipe, qui est à l'origine de la C1. Gabriel Hanau, un des journalistes de l'Équipe, lance l'idée. Il connaissait particulièrement bien le foot puisqu'il a aussi été co-sélectionneur des Bleus. Jusqu'au jour, et c'est une histoire incroyable, où son équipe perd contre l'Espagne 5-1, il réclame sa propre démission dans un article anonyme et il démissionne. Gabriel Hanau, qui est aussi à l'origine d'une autre institution du football, le Ballon d'Or. Alors, la Ligue des Champions, eh bien, c'est l'article d'un journal anglais qui met le feu aux poudres en 1954. Cet article, il ose qualifier le club britannique de Wolverhampton de meilleur club du monde, inadmissible pour Gabriel Hanau. Il propose donc une Coupe d'Europe des clubs pour savoir qui est vraiment le meilleur. Un enjeu sportif certes, mais aussi financier, parce qu'une nouvelle compétition, ça permettrait d'avoir des matchs à enjeu en milieu de semaine, et l'équipe vendrait donc plus de journaux. L'idée fait son chemin et le quotidien commence à préparer la première édition de ce qui s'appelle alors la Coupe d'Europe des clubs champions européens. L'organisation est finalement reprise en main par l'UEFA, premier match le 4 septembre 1955, et premier vainqueur le Real Madrid. La compétition continue, on arrive aux années 80. Les années 80, dans le football, elles sont marquées par le hooliganisme et plusieurs drames qui font des dizaines de morts dans les stades. L'UEFA décide de donner une nouvelle identité à sa compétition pour la rendre plus noble, plus classe. Un nouveau nom, d'abord la Ligue des Champions, un logo, 8 étoiles qui forment un ballon et une musique, pas question de reprendre une chanson pop, l'UEFA veut son propre hymne. C'est le Britannique Tony Britton qui est choisi pour le composer. Aucun lien avec le célèbre Benjamin Britton. Tony Britton, lui, travaille pour le cinéma. Il a par exemple dirigé l'orchestre pour la bande originale de Robocop en 1987. Il compose des jingles pour la télévision. La commande que lui passe l'UEFA est simple. Il faut quelque chose qui sonne classique. Pas de solo, des chœurs. La suite, il la raconte. I put together a whole load of choral music.
J'ai fait une compilation de musique chorale sur une cassette et je leur ai envoyé en leur demandant si quelque chose ressortait. Ils m'ont répondu oui, Zadok the Priest. Ça m'a donné des idées, cela m'a permis de comprendre ce qu'ils cherchaient. Donc j'en ai volé un bout, juste ça. Les cordes qui montent dans l'introduction de Zadok the Priest, mais que ça soit clair, c'est tout ce que j'ai volé.
Comme il le dit dans une autre interview, c'est pas grave, Handel est mort depuis longtemps. Effectivement, Handel est mort en 1759, il avait 74 ans, c'est l'un des principaux représentants de la période baroque, il est notamment connu pour ça. Le Alléluia du Messie, il est aussi connu pour cette sarabande.
Mmh.
Handel est né dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, à l'époque c'est le Saint-Empire, et en février 1727, il demande la nationalité britannique. Cette demande est acceptée par le roi George Ier, mais George Ier meurt quelques semaines plus tard. Le roi est mort, vive le roi, il faut donc composer de la musique pour le couronnement de son successeur George II. Handel se met au travail, il produit 4 hymnes, dont voici le premier, Zadok the Priest. C'est très ressemblant, n'est-ce pas? Tony Britton n'a eu que quelques modifications mineures à faire, mais l'idée principale est bien là. Quoi de mieux que ces nappes de cordes répétitives qui terminent en apothéose pour faire monter la tension avant un match? Quoi de mieux qu'un morceau composé pour un roi et destiné à être joué dans la gigantesque abbaye de Westminster pour faire grandiose, pour faire classe? Surtout qu'en Angleterre, c'est un morceau qui est entré dans l'inconscient collectif. Il est joué à chaque couronnement de monarque depuis George II, et ça a été le premier morceau joué au lancement de Classic FM, l'équivalent britannique de Radio Classique. Bref, ça correspond parfaitement à ce qui est recherché par l'UEFA.
Ce n'est pas conçu pour imiter l'action d'un match. Si j'avais voulu faire ça, j'aurais composé quelque chose comme ça. Ce genre de truc sombre et énergique, non, ce thème ne veut pas faire ça. Il dit, on est en train de regarder un match de football, mais on essaye de faire passer quelque chose d'un peu intellectuel sur le football. On n'essaye pas de reproduire l'énergie bestiale d'un match.
S'il n'a pas beaucoup modifié la musique, Britten a changé les paroles. Au lieu du psaume qui dit « longue vie au roi », il écrit en anglais une liste de superlatifs. Et il demande à un linguiste de les traduire en allemand et en français, les deux autres langues officielles de l'UEFA. Le résultat est, comment dire, assez banal. Voici ce qu'on entend répéter en trois langues. Ce sont les meilleures équipes, les grandes équipes, une grande réunion, ils sont les meilleurs, les grandes équipes. Et ça se termine avec les champions en anglais. En un mois et demi, c'est plié et Britten ne se doute pas que sa vie vient de changer. Pour lui, c'est un job comme les autres. Mais son hymne rencontre un franc succès. Il est joué avant tous les matchs de la compétition. Il ouvre et conclut les retransmissions télévisées. Il est irrémédiablement associé au ballon rond et ça, ça réjouit le compositeur.
I had no idea that it would...
Je ne me doutais absolument pas qu'il serait toujours utilisé 20 ans après, qu'il deviendrait synonyme de la Ligue des Champions. Un grand cabinet de conseil a fait une analyse de ce qui marche ou pas avec cette marque, et j'ai la joie de dire que la musique était l'élément d'identification le plus fort, aussi fort que le blanc et le rouge pour Coca-Cola. Je dois dire que ça m'a rendu très heureux.
Son hymne, il marque les spectateurs, mais aussi les joueurs, comme Zinedine Zidane.
Je dirais un seul mot magique, parce que la musique de la Champions League, c'est comme quand vous êtes à la maison et vous entendez cette musique-là, en fait. Tout de suite, elle vous capte. Elle capte votre attention. Et tout de suite, vous avez envie de voir ce qui se passe. Et pour tous les joueurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que, je vous ai dit, hormis la Coupe du Monde qui est un petit peu au-dessus, la Champions League, c'est le rêve de tout joueur de pouvoir emporter cette Champions League avec les deux oreilles comme ça, là.
Ou Messi.
C'est vraiment incroyable quand vous sortez sur le terrain et que vous entendez cet hymne. Vous savez que c'est un match différent, important, spécial.
Bref, Tony Britten a de quoi être content, pas mal pour quelqu'un qui préfère le rugby. Pour continuer à bénéficier du prestige associé à la musique classique, l'UEFA a choisi plusieurs stars du chant lyrique pour interpréter l'hymne lors des finales. Il y a par exemple eu Jonas Kaufmann, Juan Diego Flores ou Andrea Bocelli. Voici la version de ce dernier en italien dans le Stadio Olimpico de Rome. Nous sommes en 2009, Manchester United contre le FC Barcelone. Les Espagnols l'emportent 2-0. Cet hymne, c'est la principale passerelle qu'on peut construire entre le monde de la musique classique et celui du sport. Deux mondes souvent opposés, un loisir vu comme populaire contre un autre considéré élitiste. Côté sport, ils sont rares les joueurs qui, comme Umut Bozok, ont eu le temps d'étudier la musique en même temps que leur formation de sportif. L'attaquant franco-turc de Lorient est en effet connu comme pianiste.
Le piano, je prenais beaucoup plus de plaisir à y aller. J'avais une prof que j'appréciais énormément, donc c'était un réel plaisir de jouer du piano, alors que à l'âge-là, c'est le contraire. On veut jouer au ballon et le reste, on s'en fout. Mais moi, pas du tout, c'était tout le contraire.
Côté musique classique, le sport est parfois une source d'inspiration, plutôt chez les compositeurs du XXe siècle, siècle marqué par l'essor des loisirs et de l'activité physique. Prenons par exemple le russe Dmitri Shostakovich, l'auteur de cette valse ultra connue. Eh bien, Shostakovich, il était fanatique de football. Il allait au stade, il a passé sa licence d'arbitre et surtout, il notait absolument tout dans des carnets. Il faisait des petits dessins, des passes et des dribbles lors des matchs auxquels il assistait. En 1928, il a composé un ballet, L'Âge d'or, qui raconte l'histoire d'une équipe de football soviétique. En voyage en Occident, elle fraternise avec des ouvriers locaux. Côté français, on s'inspire plutôt des cours de tennis que de la clameur des stades de foot. Satie et Debussy ont tous les deux composé des œuvres qui font référence au tennis. Chez Claude Debussy, c'est un ballet créé en 1913 qui s'appelle « Jeu » au pluriel, une œuvre tardive du compositeur dont la carrière commence à la fin du 19e siècle. Il est souvent qualifié d'impressionniste musical, une étiquette qu'il rejetait, mais ses pièces font naître des sensations, des couleurs comme des peintures. Elles auront une profonde influence sur la musique du XXe siècle. Avec « Jeu », il évoque un jeune homme et deux jeunes filles à la recherche d'une balle de tennis dans un parc au crépuscule. En musique, ça donne ça. Chez son ami Satie, et c'est une véritable partie de tennis qu'on entend dans Sport et Divertissement en 1914. Éric Satie a vécu à la même période que Debussy. Son œuvre est inclassable, teintée d'humour, comme ses trois morceaux en forme de poire, c'est le titre, ou sa sonatine bureaucratique. Sport et Divertissement, c'est un ensemble de 21 courtes pièces inspirées, comme le titre l'indique, de Sport et Divertissement, le tennis. mais il y a aussi le golf. Ou les bains de mer. C'est joli, mais on ne joue pas Satie avant les matchs de Roland-Garros. Aucune autre pièce de classique n'a atteint la popularité de Handel, repris par Tony Britten pour la Ligue des Champions, un hymne de couronnement qui sert tous les ans à célébrer le nouveau roi du football européen. Pour résumer cet épisode, la Ligue des Champions s'est appropriée un morceau de musique baroque pour améliorer son image, et ce pari, associé deux mondes a priori opposés, s'est révélé gagnant. L'hymne est reconnaissable par des millions de fans de sport, pour qui les rares compositions classiques inspirées par le sport sont sans doute beaucoup moins familières. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur radioclassique.fr. Vous retrouverez sur l'article dédié à cet épisode les morceaux que je vous ai fait écouter en intégralité et les biographies des compositeurs que j'ai cités. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. À bientôt !